il est midi et demi. L'heure de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. À la veille des funérailles de la journaliste Lyra McKee, tuée jeudi dernier en Irlande du Nord, voilà qu'un communiqué vient raviver le spectre du retour des violences civiles dans la province britannique. Ce matin, la nouvelle IRA, groupe républicain dissident, a admis sa responsabilité dans la mort par balle de la jeune femme à Londonderry.
Au Sri Lanka, le dernier bilan des attentats suicides fait état d'au moins 321 morts.
Thomas. Et s'agissant de l'enquête, cette fois-ci, les autorités laissent entendre que ces attaques auraient été perpétrées en représailles au massacre commis le mois dernier dans plusieurs mosquées de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande.
Dans votre journal également, l'offensive judiciaire contre de puissants patrons algériens a fait une nouvelle victime.
Oui, Issad Rebrab, considéré comme la première fortune du pays, a été incarcéré la nuit dernière dans le cadre d'une enquête anti-corruption. Depuis ce matin en France, l'opposition n'a pas de mots assez durs contre la tête de liste de La République En Marche aux élections européennes, Nathalie Loiseau, après que le site d'investigation Mediapart a révélé qu'elle s'était engagée dans sa jeunesse aux côtés de militants d'extrême droite. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Patrick Evenot, universitaire spécialiste de l'histoire des médias. Avec lui, nous évoquerons l'interpellation samedi dernier du journaliste Gaspard Glanz, lequel s'est vu remettre hier une convocation pour être jugé le 18 octobre prochain au tribunal de Paris. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Ben nous prendrons la suite de votre discussion avec cette question des images qui est au centre de nos sociétés aujourd'hui, notamment à travers l'œil sécuritaire. C'est ainsi qu'on parle souvent de la vidéosurveillance ou vidéoprotection, c'est son nouveau nom aujourd'hui. Quelle réalité au-delà du clivage sécurité-liberté ? Nous en parlerons avec notre invitée, la sociologue Élodie Lemaire.
Merci et à tout à l'heure. Sur l'emblématique mur du Free Derry Corner, symbole des revendications séparatistes en Irlande du Nord, on peut lire ces mots. Pas en notre nom, repose en paix, Lyra. Un message qui reflète tout à la fois la colère des habitants meurtris par des décennies de troubles, mais aussi le rejet de toute forme de violence. Et pourtant, ce matin, le message codé envoyé à la rédaction du Irish News apparaît bel et bien comme une nouvelle plaie dans l'histoire des violences qui auront secoué 30 années durant la province britannique. Dans cette déclaration, la nouvelle IRA, ce groupe républicain dissident luttant pour la réunification de l'île, y admet sa responsabilité dans la mort jeudi dernier de la journaliste Lyra McKee, tuée par balle lors d'affrontements à Derry, Londonderry. Julien Lagache, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous êtes le correspondant de RFI pour France Culture à Dublin. Alors dans ce communiqué, la nouvelle IRA présente ses entières excuses à la famille et aux amis de la jeune femme, mais elle se justifie par ailleurs en expliquant que la journaliste a été tragiquement tuée alors qu'elle se tenait, je cite, à côté des forces ennemies lourdement armées qui auraient provoqué donc les émeutes précédant la mort par balle de la journaliste.
Oui, des excuses, mais accompagnées, comme on peut l'entendre, d'accusations contre les forces de l'ordre. Leur incursion dans le quartier catholique de Craigan pour procéder à des perquisitions a été considérée comme une provocation. C'est ainsi que la nouvelle IRA justifie la réaction violente contre la police, qualifiée d'ennemi dans le communiqué, vous le disiez, puisque l'organisation terroriste ne reconnaît pas l'autorité britannique sur l'Irlande du Nord. C'est même la base de son combat, puisqu'elle souhaite donc la réunification de toute l'île en dehors du giron de Londres et qu'elle poursuit donc la lutte armée au contraire de l'IRA qui avait déposé les armes avec la signature des accords de paix du Vendredi Saint en 1998. Alors même le Sinn Féin, ancienne vitrine politique de l'IRA et aujourd'hui parti de gouvernement à Belfast, s'est associé aux condamnations unanimes des événements de jeudi soir. Cela confirme que la lutte armée à des fins politiques est désormais marginale dans le pays, même si la police nord-irlandaise juge que la nouvelle IRA représente une menace terroriste importante. Elle disposerait de 50 à 250 membres avec un noyau dur d'anciens paramilitaires de l'IRA. L'organisation est par ailleurs assez active ces derniers mois. Un attentat à la fourgonnette piégée à Londonderry fin janvier, l'envoi de plusieurs colis piégés en Grande-Bretagne le mois dernier. Et le communiqué publié ce matin souligne que les combattants du groupe useront à l'avenir de meilleures précautions pour éviter d'autres morts comme celle de Lyra McKee. Autrement dit, la nouvelle IRA ne compte pas désarmer, malgré l'opposition d'une majorité de la population qui a manifesté son refus des violences à plusieurs reprises durant le week-end pascal. La police dit d'ailleurs avoir été contactée à plus de 140 reprises depuis jeudi soir par des habitants de Londonderry pour donner des informations. Une coopération qui tranche selon les autorités avec le climat sectaire de l'époque des troubles.
Merci Julien Lagage, correspondant de RFI pour France Culture à Dublin. Nouveau signe des tensions et des déchirements au sein du Parti conservateur britannique. Les chefs de plus de 70 sections locales ulcérées par sa gestion du Brexit ont réclamé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la convention nationale du parti Tory pour débattre du leadership de Theresa May. Un éventuel vote de censure dans le cadre d'une réunion extraordinaire ne serait pas contraignant, mais il témoigne à tout le moins de la fronde persistante donc dans les rangs du parti de la première ministre britannique. Des cercueils couverts de fleurs, des hommes et des femmes tout autant vaincus par l'émotion que saisis par la consternation. Il était 8h30 ce matin au Sri Lanka, heure de la première explosion deux jours plus tôt à l'église catholique Saint-Antoine de Colombo, lorsque l'île tout entière s'est tue pour rendre hommage aux victimes des pires attentats qu'ait connu le pays depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Attentats qui, selon un dernier bilan, ont fait 321 morts. C'est donc par ces 3 minutes de silence qu'a débuté cette journée de mardi, décrétée journée de deuil national. Parallèlement, l'enquête sur le motif de ces attentats suicides d'une rare violence progresse et semble à présent s'orienter vers la mouvance djihadiste, en dépit du contexte religieux relativement harmonieux qui prévalait depuis la fin de la guerre séparatiste, laquelle s'était bâtie sur des tensions essentiellement ethniques. Le gouvernement affirme que ces attaques auraient été perpétrées par deux groupes islamistes sri-lankais qui auraient probablement bénéficié d'une aide venant de l'étranger. Autre élément de cette enquête fournie ce matin, les autorités laissent entendre que les attentats auraient été commis en représailles au massacre par un suprémaciste blanc le mois dernier de 50 fidèles musulmans néo-zélandais. C'était à Christchurch. Enfin, restent également les interrogations autour de cette fameuse note des services de renseignement. Ces derniers avaient alerté les autorités d'un attentat imminent d'un groupe islamiste contre des églises, une note qui n'a pas été prise assez au sérieux, visiblement. Les précisions du correspondant de RFI dans la région pour France Culture, Sébastien Farcy.
C'est une note confidentielle datée du 11 avril, soit 10 jours avant les attentats, et elle détaille avec précision l'identité et les mouvements de plusieurs membres du National Tawhid Jamaat, l'organisation accusée aujourd'hui d'avoir perpétré ces attaques. Cette note prévient que son chef, Mohammad Zaharan, appelle les musulmans à se venger de l'attentat contre la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande et incite pour cela à tuer tous les non-musulmans. Les services estiment alors que cet islamiste serait en train de préparer des attaques contre des églises au Sri Lanka. Les agents de renseignement connaissaient donc l'imminence de cette attaque, mais l'information semble s'être perdue à cause du conflit politique entre le président et le premier ministre. Le chef de l'État a en effet tenté de renvoyer son premier ministre en octobre dernier, ce qui a été annulé, mais a plongé le pays dans une longue crise politique et a peut-être facilité le travail de ces terroristes.
Comme un rappel de ce qu'aucun continent ni aucune religion n'est aujourd'hui à l'abri du radicalisme. En Birmanie, là où des bouddhistes extrémistes se sont rendus coupables d'exactions à l'encontre de la minorité musulmane du pays, la Cour suprême a rejeté ce matin l'appel formé par les deux journalistes de l'agence Reuters emprisonnés pour atteinte à la loi sur les secrets d'État et condamnés à 7 ans d'emprisonnement alors qu'ils enquêtaient sur le massacre de Rohingyas au cours d'une opération de l'armée. Les deux reporters ont toujours assuré avoir été trompés. L'un des policiers qui a témoigné dans ce dossier a lui-même reconnu que le rendez-vous au cours duquel les documents classifiés avaient été remis aux journalistes était un piège destiné à les empêcher de poursuivre leur travail. Un travail récompensé d'ailleurs la semaine dernière par le prestigieux prix Pulitzer. Les précisions à Rangoon de Elisa Hunt.
Ce matin, c'est en quelques mots seulement, sans plus de précision, que le recours des deux journalistes de l'agence Reuters a été rejeté dans la capitale Naypyidaw. Les deux reporters ont toujours répété depuis leur arrestation en décembre 2017 qu'ils avaient été piégés par la police. Wallon et Chosoo enquêtaient sur un massacre commis par l'armée et des civils contre la minorité musulmane des Rohingyas dans l'ouest du pays, des faits qui ont ensuite été reconnus par l'armée birmane. La décision de la justice ce matin montre à quel point la démocratie va mal sous le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, a réagi l'organisation Human Rights Watch. Malgré l'arrivée au pouvoir de la dirigeante et de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, militants des droits de l'homme et journalistes continuent d'être arrêtés dans le pays. Sur les plus de 9000 détenus qui ont bénéficié d'une amnistie de la part des autorités la semaine dernière, seulement 2 d'entre eux sont des prisonniers politiques.
Aux Philippines, les secouristes s'affairaient toujours ce matin pour tenter de retrouver des survivants potentiellement pris au piège sous les décombres d'un supermarché qui s'est effondré la veille près de Manille lors d'un puissant séisme qui a fait au moins 16 morts selon un nouveau bilan. Et puis ce matin, un nouveau tremblement de terre de magnitude 6,6 a été enregistré dans le sud de l'archipel. Comment renouer avec un allié historique quand sa diplomatie s'enlise avec un ancien ennemi devenu depuis un ami de pacotille? Ce matin, l'agence officielle nord-coréenne a confirmé que Kim Jong-un se rendrait prochainement en Russie, possiblement demain ou jeudi, pour des discussions avec le président Vladimir Poutine. En revanche, peu de détails encore infiltrés sur ce sommet. Tout juste sait-on que la rencontre devrait avoir lieu dans le port de Vladivostok. Quoi qu'il en soit, pour le régime de Pyongyang, il s'agira donc surtout de chercher un soutien international plus large que son seul allié chinois dans son bras de fer avec les États-Unis. En mettant fin aux dérogations qui permettaient encore à 8 pays d'acheter du pétrole à Téhéran, l'administration américaine a encore renforcé hier sa campagne de pression maximale pour faire plier son ennemi numéro 1 au Moyen-Orient, la République islamique d'Iran. Donald Trump entend désormais porter à zéro les exportations de brut iranien et priver ainsi le régime de sa principale source de revenus. Une décision risquée qui pourrait non seulement menacer la stabilité du Golfe Persique, mais également accroître un peu plus encore les tensions avec certains partenaires commerciaux des États-Unis, dont la Turquie et la Chine, l'un des plus gros importateurs de brut iranien, ou bien encore l'Inde, alliée stratégique de Washington et troisième importateur mondial de pétrole, dont environ un dixième des achats vient d'Iran. C'était la semaine dernière en Algérie, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, disait s'attendre à ce que des membres de l'élite au pouvoir soient jugés pour corruption. Et hier, 5 milliardaires, dont des proches de l'ancien président Bouteflika, ont effectivement été arrêtés dans le cadre d'une enquête anticorruption. Parmi eux figure notamment Issad Rebrab, première fortune du pays, PDG du groupe privé Cevital, soupçonné à la fois de fausses déclarations relatives à des mouvements de capitaux et de surfacturation d'importation. Hier, l'homme âgé de 74 ans avait annoncé sur Twitter qu'il s'était simplement présenté à la brigade de gendarmerie sans faire état d'une arrestation. Or, ce matin, c'est officiel, l'homme a bel et bien été incarcéré. C'est une correspondance à Alger signée Laïla Berato.
Lundi matin, les autorités annonçaient qu'il était interpellé, mais le groupe Cevital, dont Issad Rebrab est le propriétaire, démentait. Dans la nuit de lundi à mardi, le chef d'entreprise, 74 ans, a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison de El Harach. Selon l'agence officielle de presse, il est poursuivi pour fausses déclarations liées à des transferts de capitaux vers l'étranger, surfacturation d'équipements importés et importation de matériel d'occasion. Issad Rebrab, 74 ans, est milliardaire, considéré comme la plus grande fortune du pays. Parti de rien, son groupe Cevital couvre désormais toute une chaîne du marché, de la fabrication de l'agroalimentaire à l'électronique, du BTP aux centres commerciaux, en passant par la distribution. Il détient aussi le quotidien francophone Liberté. Son groupe a près de 18 000 employés selon la presse, et il est aussi celui qui a racheté le groupe Fagor Brandt en France. Côté politique, Issad Rebrab a quitté l'organisation patronale, le FCE, en 2004, s'opposant au soutien à Abdelaziz Bouteflika. L'homme veut avoir l'image d'un homme qui n'est pas soumis au pouvoir. Au mois de mars, le groupe Cevital avait annoncé publiquement son soutien au mouvement populaire.
L'ex-magnat de l'automobile et président déchu de l'Empire Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a été inculpé hier d'un chef d'accusation supplémentaire d'abus de confiance aggravé. Cette nouvelle inculpation est la quatrième depuis le début des procédures judiciaires engagées à son encontre. Or, c'est dans ce contexte particulier, voire sensible, qu'Emmanuel Macron recevait ce matin à l'Elysée le premier ministre japonais Shinzo Abe. Les précisions de Christian Cheneau.
Officiellement, l'affaire Carlos Ghosn n'est pas à l'agenda de l'entretien entre Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. On ne sait pas si le dossier sera évoqué lors du déjeuner à l'Elysée. En accueillant son hôte japonais, Emmanuel Macron a salué un ami fidèle dans les bons moments comme dans les tempêtes. Il s'agit pour les deux dirigeants de préparer le prochain G20 qui aura lieu fin juin à Osaka et le G7 de Biarritz à la fin de l'été. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu de ces deux rendez-vous internationaux est de parvenir à rétablir un axe du multilatéralisme selon ses mots. Avec des questions prioritaires à l'agenda, le commerce mondial, le numérique ou encore le réchauffement climatique. Shinzo Abe s'est dit sur la même longueur d'onde que le président français. Il a rappelé que la France et le Japon étaient deux pays du Pacifique. une région où les dossiers chauds ne manquent pas non plus, à commencer par la question du nucléaire nord-coréen ou encore des ambitions de la Chine sur le plan militaire ou commercial. En tout cas, la relation franco-japonaise est au beau fixe. Emmanuel Macron a annoncé qu'il ferait une visite officielle à Tokyo juste avant le G20 d'Osaka.
Les Français devront-ils travailler plus et si oui, pour financer quoi? La question divise la classe politique jusqu'au sein de la majorité. Sera donc l'un des enjeux de l'intervention très attendue d'Emmanuel Macron jeudi pour répondre au grand débat et à la crise des gilets jaunes. À l'évidence, il faudra qu'on travaille davantage pour pouvoir mieux soutenir nos aînés, a notamment déclaré hier celle qui mène la liste présidentielle pour le scrutin du 26 mai. Nathalie Loiseau, l'ex-ministre des Affaires européennes, n'a pas précisé en revanche sous quelle forme. Abandon des 35 heures, augmentation des années de cotisation retraite ou suppression d'un jour férié. Mais on ne peut pas continuer à laisser les choses en l'état, a-t-elle insister. Nathalie Loiseau, toujours elle, qui s'est par ailleurs attiré les railleries de toute l'opposition ce matin après les révélations du site d'investigation Mediapart, selon lesquelles elle s'était engagée dans sa jeunesse aux côtés de militants d'extrême droite. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
L'affaire remonte à 1984. À l'époque, Madame Loiseau, qui porte encore son nom de jeune fille du Coulombier, apparaît lors d'élections à Sciences Po sur la liste Commission paritaire de l'Union des étudiants de droite, l'UED, syndicat né sur les cendres du GUD.
Oui, Nathalie Loiseau s'appelait encore à ce moment-là, vous le disiez, Nathalie Ducoulombier. Elle avait tout juste 20 ans. Elle était à Sciences Po dans la filière de préparation au concours de l'ENA et elle a effectivement figuré parmi les candidats à une élection de délégués étudiants sur une liste qui s'intitulait Union des étudiants de droite. Il s'agit d'un syndicat étudiant qui prônait l'unification de tous les courants de la droite et qui serait né, affirme Mediapart, sur les cendres du GUD, une organisation étudiante d'extrême droite très active dans les années 70 et réputée pour ses actions violentes. Nathalie Loiseau affirme qu'elle ne connaissait qu'un seul de ses colistiers, qu'elle a accepté de figurer sur cette liste pour lui faire plaisir et que si par la suite certains des étudiants figurant sur cette liste ont viré à l'extrême droite, elle n'en est pas responsable. Dans un texte diffusé en privé et qui est relayé ce matin par plusieurs de ses soutiens sur Twitter, elle s'en prend de façon très violente à Mediapart et à Edoui Plenel en particulier. Plenel est en plein amalgame, écrit-elle. Venir de la droite et avoir rejoint Emmanuel Macron, ça lui est insupportable. Et elle ajoute dans une colère débridée, avoir été gaulliste à 20 ans plutôt que maoïste, soutien du terrorisme palestinien et des Khmers rouges, c'est insupportable à Edoui Plenel. Dans un premier temps très 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 énervé, Nathalie Loiseau s'est un peu calmée par la suite puisque de façon beaucoup plus officielle et moins colérique, elle a regretté une vraie connerie, une erreur de jeunesse.
Alors évidemment, à un mois maintenant des élections européennes, c'est peu de dire Stéphane que l'opposition a rapidement, vertement même réagi ce matin aux révélations sur le passé de la tête de liste LREM.
Oui, tout ça a suscité un certain nombre de commentaires qui alternaient entre l'indignation et la moquerie. Pour la tête de liste de la France Insoumise, Manon Aubry, il n'est pas surprenant que Nathalie Loiseau ne veuille débattre qu'avec le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella. Ça doit lui rappeler sa jeunesse, a-t-elle dit. Le communiste Yann Brossat a lui rétorqué que ça faisait quand même tout drôle, étant donné qu'aujourd'hui elle se présente comme le rempart contre l'extrême droite. Et puis à droite, François-Xavier Bellamy, pour les Républicains, a estimé qu'il fallait peut-être faire preuve d'un peu d'humilité quand on a ses expériences passées. Très mal à l'aise, Nathalie Loiseau continue d'affirmer ce matin qu'à l'époque, elle ne s'est rendue compte de rien et que si elle avait identifié des membres du GUD sur cette liste, elle n'aurait jamais accepté d'y figurer.
Merci Stéphane Robert. François Fillon et son épouse Pénélope ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs présumés qui avait fait dérailler la campagne de l'ex-candidat à la présidentielle. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy a été mis en examen en mars 2017 pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives. La justice le soupçonne en particulier d'avoir offert à son épouse un emploi fictif d'assistante parlementaire. Enfin, ultime information concernant le Sri Lanka, le groupe djihadiste État islamique revendique les attentats qui sont intervenus dimanche au Sri Lanka sans pour autant fournir de preuves. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Patrick Evenot, universitaire spécialiste de l'histoire des médias. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés en studio pour vous interroger, Antoine Marette. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas, bonjour Patrick Evenot.
Samedi dernier, bonjour. Le journaliste Gaspard Glantz, donc spécialisé dans la couverture de mouvements sociaux, notamment celui des Gilets jaunes, a été interpellé lors de l'acte 23. Hier, il s'est vu remettre une convocation pour être jugé le 18 octobre prochain au tribunal de Paris. Et d'ici cette date, il aura donc pour interdiction de paraître à Paris pour couvrir les prochaines manifestations. Alors, du SNJ à RSF, beaucoup ont manifesté leur soutien. Selon vous, monsieur Evenot, doit-on en déduire que le pouvoir chercherait aujourd'hui à intimider les journalistes en les empêchant d'informer les citoyens ?
On va peut-être pas dire que c'est le pouvoir, mais que c'est certains pompiers qui effectivement connaissent très bien un certain nombre de journalistes qui suivent, notamment Gaspard Glantz, qui suit les manifestations depuis plusieurs années, et qu'ils veulent l'intimider, sans doute parce qu'ils en ont assez, de se faire prendre en flagrant délit de violence policière, ce qui arrive quand même de plus en plus souvent.
Question d'Antoine Marette.
Est-ce que Gaspard Glantz est journaliste ?
Alors, Gaspard Glantz, il est journaliste sans carte de presse. Il faut bien comprendre que est journaliste quelqu'un qui fait de l'information pour le public. On peut être titulaire d'une carte de presse, on peut ne pas être titulaire d'une carte de presse. La carte de presse, il faut avoir un certain nombre, il faut avoir plus de 51% de ses revenus, il faut être dans une entreprise reconnue, enfin bon, toute une série de choses comme ça qui font que il y a 37 000 cartes de presse en France, mais qu'il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui font du journalisme sans carte de presse, soit sous le statut d'auto-entrepreneur ou d'autres choses. Donc, le journaliste, c'est celui qui informe le public, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'important, c'est l'information du public. Dans une démocratie, il faut qu'il y ait pluralité de l'information, qu'il y ait plusieurs sources d'information, et que le public puisse se nourrir de différentes sources, et après, se faire sa propre opinion tel qu'il le veut. Mais alors, Gaspard Glantz, il est journaliste sans être journaliste tout en étant journaliste.
Mais est-ce qu'au-delà de la carte de presse, on connaît les tweets parfois très insultants de Gaspard Glantz à l'égard notamment de Christophe Castaner, est-ce que ça ne va pas au-delà du simple engagement journalistique ?
Alors, il n'est pas seulement journaliste, il est militant, c'est évident. C'est un militant. Je ne sais pas de quel classement on peut le mettre, mais il est militant des mouvements sociaux, c'est évident. Il n'est pas le seul. Il y en a toujours eu des journalistes comme ça, depuis les anarchistes, les communistes dans les années 1890 ou 1930, depuis l'extrême droite au moment de l'OS. Il y a toujours eu des journalistes à la frange du militantisme qui faisaient aussi quand même fonction d'informer le public.
Est-ce que l'interdiction qui lui est faite d'aller à Paris le 1er mai et le samedi, qui correspond en fait à une interdiction de couvrir ces manifestations, est-ce que c'est une atteinte à la liberté de la presse selon vous ?
Alors là, je crois vraiment que c'est une atteinte parce que il a été mis en garde à vue pour deux choses. D'une part, outrage à agent dépositaire de la force publique, il avait fait un doigt d'honneur, ça c'est évident. Et d'autre part, les policiers retenaient une participation à un groupement vu de commettre des violences ou des dégradations. Le juge, qui est chargé de le mettre en examen, n'a pas retenu cette dernière chose. Il y a simplement outrage à agent. Outrage à agent, ça ne doit pas vous empêcher de vous exprimer, de manifester. Vous avez fait peut-être une bêtise qui est répréhensible par la loi. C'est un délit qui peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement, mais ce n'est qu'un délit. Et là, c'est vraiment une volonté de l'intimider, de l'empêcher de couvrir les mouvements des Gilets jaunes, les mouvements sociaux qui risquent de se passer à Paris d'ici le mois d'octobre.
Alors on constate depuis le début du mouvement des Gilets jaunes le développement de ce que l'on pourrait appeler des journalistes citoyens. Ils participent aux manifestations, aux conférences de presse, ils filment en direct, souvent à l'aide de leur téléphone portable. Ils réagissent aux propos tenus par les personnes interviewées. On pourrait dire que Gaspard Glantz, même si c'est un professionnel, il est un peu dans cette veine-là. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce phénomène de ce qu'on pourrait appeler journaliste citoyen ?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est là où les forces de l'ordre doivent prendre en compte. C'est là où ils sont complètement dépassés. Ils sont encore dans les anciens schémas des médias installés, des journalistes installés qui avaient l'étiquette France Culture, France 3 ou CNews, je ne sais quoi. Maintenant, il y a tout un tas de citoyens qui filment et qui se font reporters d'images, même sans faire un travail de journalisme véritable, mais qui se font reporters d'images. Et c'est aux forces de l'ordre de prendre en compte ces gens-là qui ont une démarche d'informer le public autrement. Mais l'information du public, ça reste en démocratie quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que les forces de l'ordre n'ont pas à s'en faire juge. Les forces de l'ordre ont à faire respecter l'ordre, mais pas à faire en sorte que l'ordre soit celui qui dicte ce qui doit informer le public.
Et les journalistes traditionnels, c'est parfois un peu compliqué de travailler dans ces conditions. On a des gens qui réagissent aux propos des personnes interviewées, des personnes, des journalistes citoyens qui filment les journalistes en train de travailler. C'est compliqué aussi.
Rapidement.
Oui, c'est très compliqué pour les journalistes professionnels aussi. Et on est effectivement dans un moment où les fonctions d'information sont en train de se transformer. Et il faut que et les citoyens et les forces de l'ordre et les journalistes professionnels se saisissent de ce système-là qui est en train de changer pour changer leurs propres pratiques.
Merci Patrick Evenot, universitaire, je le rappelle, spécialiste de l'histoire des médias, d'avoir été en direct avec nous. Et merci également à Antoine Marette. On termine avec un mot de météo instable sur de très nombreuses régions, avec notamment des ondées orageuses. Seules de belles éclaircies résisteront des Hauts-de-France au Grand Est et de la Franche-Comté aux Alpes du Nord. Quant aux températures, elles seront comprises généralement cet après-midi entre 17 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.